ספר דניאל, פרק ח', בשנת 3, למלכות בלשצר המלך, חזון נראה אליי, אני דניאל, אחרי הנראה אליי בתחילה. Alors ici, on est, c'est la suite du Perek Zayin en vérité. Dans Perek Zayin, on a vu que Daniel, il a eu un chazon, une vision de quatre animaux sauvages. On a vu le lion, une bête qui ressemble à un lion, une bête qui ressemble à l'ours, une bête qui ressemble au tigre, et une bête qui ressemble à rien du tout, c'était avec des cornes et des machins en fer, etc. Et dans l'interprétation du rêve du Perek Ret, il s'est arrêté sur la première bête sauvage et la dernière, sur, on va dire, sur Babel, d'accord, le lion qui va, et après qui va être exterminé, et sur la dernière bête sauvage qu'on a parlé, que c'était des cornes, etc., et donc c'était Rome, et comment elle va tomber, comment elle va monter, comment elle va tomber, les dix oumots qui vont sortir après les trois, et après une corne avec un œil et une bouche qui est qui représente Rome, qui représente les Vatican, etc., etc. Donc le rêve a été interprété la première année du roi Belshazzar, donc avec Daniel. Belshazzar, c'était le dernier des rois de Babylone. Alors là, le Passouk Ret, le Perek Ret, il va nous dire deux choses. Il va nous dire que premièrement, on va s'adresser dans le rêve à Daniel la troisième année du règne de Belshazzar, pour lui expliquer qui sont ces deux chayot, qui sont ces deux qu'on n'a pas détaillé. C'était l'ours et c'était le tigre. Qui sont? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Est-ce qu'ils vont être bons, pas bons, etc. Et en plus détaillé ce qu'on lui a dit dans la première vision. Idan veidanim ou plag idan. Que veut dire un temps plus deux temps plus la moitié d'un temps? Il va un peu plus détailler, mais de toute façon, on ne saura pas c'est quand. Donc là, le but de cette interprétation, c'est d'expliquer ces deux chayotes-là qui nous manquent. Maintenant, nous, les chayotes, Daniel, dans le premier rêve, il a vu les chayotes en tant que ours et en tant que tigre, qui sont des animaux sauvages. Et ici, on va voir en tant que quoi il va les voir et pourquoi il va les voir différemment. Très intéressant. Bishnat shalosh le malchut belshazzar, amelech. Alors, continue à raconter Daniel, Chazon ira Elai. J'ai eu donc une fameuse vision. Ani, Daniel, Achare, Anira, Elai, Batechila. C'est ce qu'on vient de dire. C'est la suite du premier vision de la première année de Belshazzar. Achare, Anira, Elai, ce qui m'a été proposé, vu dans Batechila, dans la première vision. D'accord. Donc qu'est-ce qu'il va voir concernant, si on traduit maintenant, concernant Madaï et Paras, et concernant les Grecs. Qu'est-ce qu'il va voir? Vaere Bechazon. Et là, il raconte qu'est-ce qu'il a vu. Vaï Biroti. Dans mon rêve, je me vois. Vani Bechushan Abira. D'accord? Je me vois que je suis dans la capitale Suse, Shushan Abira, qui était la capitale, qui sera la future capitale d'Achashverosh. Là, on est à l'époque de Belshazzar, Babel. La capitale n'est pas à Shushan, d'accord. Mais comme il est en train de voir une vision du futur, donc dans la vision du futur, il se voit déjà dans le futur. Mais il a défini dans le rêve et dans ce qui marque, il a défini qu'il y aura une ville qui va s'appeler Shushan, qui sera la capitale. Pour l'instant, on connaît pas Shushan, c'est un petit patelin dans la médina de Elam, à Sherbe Elam, à médina, donc c'est la médina de Madaï Paras. Ça veut dire que c'est une vision qui est... C'est intéressant parce que tout ce périple-là, on verra comment il y aura des cas qui vont se concrétiser à la fin, mais Daniel l'a écrit bien avant. Donc déjà, il va annoncer ici qu'il y aura une ville qui s'appellera Shushan, enfin, il y a une ville Shushan qui sera la capitale. Donc il se voit dans cette capitale.
Donc là, c'est
comme si tu vas dire, je rêve maintenant que Hadera, c'est la capitale d'Israël. Et je dis, dans Hadera, capitale, Irabira, qu'est-ce que Hadera, après on calcule, tu n'es même pas dans la liste des maisons, machin rouge, pouf. Dans le pays, Elam, qui se trouve à Shushan Abira, d'accord, à Médina. Elam à Médina, le pays c'est Elam et la capitale c'est Shushan. Va erer bachazon, va ani aiti al uval ulay. Et je vois dans le rêve, dans cette vision, pas dans le rêve, que je me trouve au niveau d'un fleuve qui s'appelle uval, c'est un fleuve, qui s'appelle ulay. Ce fleuve aussi n'existait pas encore. Parce qu'à l'époque, dit le Malbim, les Babyloniens et après les Médailles et les Parasses, ils déviaient des fleuves pour alimenter des capitales, comme il y a eu à Jérusalem. Quand ils voulaient de l'eau dans un endroit qui devait se développer, ils déviaient des fleuves. Donc, le fleuve Oula, il n'existait pas, mais il se voit sur ce fleuve qui va exister. Donc, c'est deuxième vision qui n'existe pas, qui va voir.
Mais pourquoi Shushan ne peut pas dire que ça n'existait pas?
Non, Shushan, c'est la Bira qui n'existait pas. La capitale. Elle n'était pas capitale encore.
Ah, mais la ville existait. Ah,
oui.
Ah, d'accord.
Vaïsa et Naï. Et donc, dans ce rêve, je lève mes yeux. Vaere, Veine, Aïl et Chadomed, Ifne, Aouval, Velo Karnaïm. Je vois un bélier. Un bélier qui se met
qui est debout
avec devant le fleuve, devant ce fleuve là, et il avait des cornes. Alors Ve'akarnaim, il avait deux cornes. Gevoot, ils sont grandes, un bélier avec des très grandes cornes, et ces cornes là, une qui est plus grande que l'autre, Ve'achad gevoa minashenit, et qui est plus grande, celle qui est derrière, Ve'gevoa ola baharona. Donc il voit un bélier avec deux cornes. D'accord ? Une grosse corne devant, une plus grosse corne derrière. D'accord ? C'est qui ça, ce bélier ? C'est Madaï et Paras. D'accord ? Vous vous rappelez que Madaï, c'était le roi de Madaï, c'était le beau-père du roi de Paras. Donc Dariavesh, qui était le roi de Madaï, était le beau-père de Koresh, qui va être le roi de Paras. Dariavesh, c'était un roi puissant, mais pas aussi puissant que son gendre. Donc, il est représenté par une grosse corne, mais il y a une corne qui est plus grande que lui, qui est la corne de Koresh, qui est derrière, qui est après lui, parce que d'abord, qui va régner ? Dariavesh, Meler Madaï, et après, Koresh, qui va prendre la place, son gendre, il va prendre, ce ne sera pas sans guerre, quoi, c'est le même empire, Madaï et Paras. Donc, il va avoir ces deux cornes-là. D'accord ? Pourquoi, dans son rêve, il va voir Madaï et Paras en tant que bélier ? Pourquoi pas en tant que course ? Il y a l'ours. Dans le rêve précédent, c'était l'ours. Pourquoi il est passé au bélier ? Alors, dit le Malbim, extraordinaire. Hein, Moshe ? Dit le Malbim, extraordinaire. Il dit que Madaï et Paras, et même Yavan, qui va être représenté par une chèvre, c'est des animaux de Théorim, qui sont pas féroces, qui sont pas prédateurs, etc. Ces animaux-là, ils représentent leur comportement envers Israël. Alors que dans le rêve précédent, l'ours et le tigre, ils représentent leur comportement envers l'Empire, envers comment ils ont conquis le monde. D'accord ? Parce que ils ont conquis le monde, oui, ils étaient comme des lions, ils étaient comme des ours ou comme des tigres, as, etc. etc. Mais concernant l'interprétation maintenant qu'on va expliquer, comment vont se comporter ces peuples-là, les deux qui sont au milieu, Ya, Madaï et Paras et Yavan, quand ils vont se comporter envers Israël, pas en tant que dove, en tant que lion, hein, mais en tant qu'animal domestique qui ne fait pas du mal. Pourquoi ? Parce qu'en vérité, Madaï et Paras, ils étaient gentils avec les Juifs, hein, Moshe. Madaï et Paras, ils n'ont pas fait du mal.
Ils
ont du mal. Bon, il y avait Aman qui a voulu faire, mais ce n'est pas lui. Mais ils ont voulu construire le Beth Amidash une fois, après une deuxième fois, et ils ont construit le deuxième Beth Amidash. C'était un exil. Un exil, certes, mais il n'y avait pas la... C'était pas comme les Romains. Ou comme les Babyloniens qu'ils ont détruits. Yavan, qui sont les Grecs, à part Antiochus, qui était aussi méchant, mais qui a fait du mal à Israël, qui a voulu imposer sa religion, tous les rois depuis Alexandre le Grand jusqu'à le dernier des Grecs, ils étaient bien avec Israël. Alexandre le Grand, il a respecté, on connaît l'histoire, et Shimon HaTzadik. Oui, il n'y avait pas de Xéroth. Les Grecs n'ont pas fait d'exéroth au peuple soumis que ce fameux Antiochus Arasha qu'on va voir un peu plus tard. Donc ces deux animaux-là sont représentés par rapport à Israël en tant que Behemah Tehora, en tant qu'animal gentil. Ils ont des cornes, certes, parce qu'ils vont quand même régner, mais ce n'est pas les lions et les ours qu'on a vus par rapport au Umot HaOlam. C'est beau, hein, ce qu'il dit Malbim.
Et c'est pas aussi le fait que ça...
Donc nous dit ici le pasuk de l'être Haïti. Et à Aïl, Menager, Yama, Vetsafona, Vadegba. J'ai vu ce bélier-là, d'accord, qui est en corne, à droite, à gauche, ça veut dire Yama, Vetsafona, nord-sud, vous voyez qu'il y a en le nord et le sud, Vadegba, et le Negev, c'est le. Non, qui là Yama, c'est l'ouest, Tsafona, le nord, Negba, c'est le sud. Les trois côtés de la terre, Pourquoi il n'a pas vu encore né l'Est? Parce que eux, ils campaient à l'Est. Donc ils avaient tout le territoire de l'Est qui était déjà conquis, qui étaient déjà eux les maîtres avant d'attaquer les autres. Donc ils ont eu besoin d'attaquer que ces trois kivounim. Vechol chayot, lo yamdu lefanav. Aucun animal qui apparemment régnait autour de lui n'a réussi à tenir tête. Ve'en matzid miyado. Personne n'a pu s'en sauver. Ve'asakir tsono ve'igdil. Ils ont fait ce qu'ils voulaient. Donc ce petit bélier là, ce bélier qui avait deux cornes, il faisait ce qu'il voulait. Ve'igdil, il a grandi, et est devenu l'empire Madaï et Paras. Bon, ça c'est ce qu'il voit, d'accord. Après il continue, il voit Vani a été Mevin, et je me dans le, il raconte que dans le rêve j'étais en train de dire mais ça veut dire quoi tout ça. Il réfléchissait, il essayait de comprendre qu'est-ce qui se passe, c'est quoi ce bélier avec ses deux cornes. Et en voyant ça, Vine Tsefir Aizim Bamina Marav, d'accord. Il y a maintenant Marav, donc ça veut dire c'est du côté ouest, d'accord, qui était à l'époque là où campaient donc les Madaï et Paras. Vient un Tsefir Aizim, une petite chèvre, comment on appelle ça? Une petite chèvre qu'on appelle
cabri. Non,
un chèvre, bouc, c'est la grande.
Cabri, non
ouais. Une petite chèvre.
Cabri.
Chèvre. Bon, alors, voilà, une petite chèvre.
Un cabri.
Petit cabri.
Cabri.
Tsfir Ha'izim. D'accord. Donc, au début, c'est un petit chèvre qu'on a tout mignon. Bamina Marav qui vient de l'ouest. Alpené qu'on l'arrête et qu'il commence à s'étendre sur toute la terre, à s'étendre. Ve'en nogea paaretz. Alors on fait allusion, ça parle de qui? Qui est le premier qui va conquérir des Grecs, qui va conquérir le monde entier très vite? Alexandre le Grand. D'accord. Au début il était tout petit. Alexandre le Grand était petit. D'accord. Tsfir Aizim, une petite chèvre. D'accord. Il vient de l'ouest et il va alpené qu'on l'arrête. Ve'en nogea paaretz. Tellement qu'il allait vite. Il a conquis le monde très 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 vite, sans aucun, sans que personne puisse tenir tête. On considère comme si Ven Nogea Baaretz, comme si il marchait pas sur la terre, il planait. Tu voyais comme si comme les chevaux que tu les vois en train de au galop, tu vois à peine qu'ils touchent la terre parce qu'ils sont dans une vitesse. Et ben c'est pareil. Et Ven Nogea Baaretz, Ve'at Safir, et ce fameux Gedi Katan, Keren Chazut Ben Einav. Il avait une corne, une seule corne avec un œil. Et on a expliqué que c'est quoi l'œil? Ça représente la chorma. La chorma, sur la corne du quatrième bête féroce, il y avait une corne et un œil. Et bien, c'était pareil. Keren Chazout, une corne avec qui voyait. La corne, c'est la chorma. Il faut savoir que celui qui connaît un tout petit peu l'histoire de l'époque.
Mais Chazout, mot à mot, c'est les fronteries.
José. Non, José. Chazout.
Chazout, c'est les fronteries, non?
Azout. Alors, il faut savoir qu'Alexandre le Grand, d'accord? Quand il s'est battu avec à l'époque c'était Koresh, Dariavesh Koresh, il était cinq fois, il avait une armée cinq fois moins puissante et moins en quantité que l'armée de Koresh.
Alexandre le Grand.
Et sa chorma, lui, c'est sa chorma qui l'a fait faire des ruses pour réussir à combattre une armée. On parle de 150 000 à 200 000 soldats, l'armée de Koresh. Alors qu'eux, ils étaient 40 000. Moi, je suis au cas, j'ai plus en tête ces histoires. Et ça, c'est sa chorma qui l'a fait gagner. Il était très jeune. Il a pris le pouvoir à 26 ans. Il a pris le pouvoir de son père qui était Philippe II, je crois on l'appelait, qui était le roi de Macédoine, qui lui aussi était un grand guerrier. D'accord, hein?
Il est mort à 32
ans. Il est mort à 32 ans. Alexandre. Il a conquis le monde en 6 ans. Mais tout ça s'est passé par la chorma. Et donc tout ça, on apprend du mot. Enfin, on apprend. C'est marqué. Ça se voit dans la forme de la corne. La corne qui était avec un œil, qui a réussi à combattre ce gros bélier qui avait deux grosses cornes. Lui, c'est un petit, avec une petite corne. Mais comme la chorma était dans la corne, l'autre, il n'avait pas des yeux dans la corne, ni des bouches. Il n'avait pas les yeux. Donc, ils étaient sûrs de leur force par leur nombre. Mais le sérel n'était pas là.
Il n'y avait pas de chorma.
Nous dit le pasouk, vayavo adahil. D'accord? Vayavo adahil. Donc, ce fameux Tsfir, Aizim, il vient, il s'approche du Haïl, Balakarnaïm, Asher Haïti Omed, que j'ai vu, qui était devant moi, Lifne Aouval, Et il s'approche, Vayarot Selav, et il court. Mahamat Kocho, tellement qu'il avait l'élan de la course. Il course, il fonce et puis il le déchire. Dit le Malbim, Rashi qui ramène aussi, il dit que Vayavo Adail, au début, dit le Malbim, au début, Koresh, quand il a entendu que le petit jeune Alexandre, il arrive se battre contre lui, il a dit bon, c'est pas, ils sont cinq fois moins forts que nous en quantité, même pas il a voulu se déplacer lui, il a envoyé son chef d'armée se battre contre Alexandre. Et Alexandre, il a déchiré. Et donc il a vu ça. Et il a gagné cette guerre, la première guerre avec lui. C'est un an la guerre de je ne sais pas quoi. Il y a une guerre qui est connue, enfin, qui est dans l'histoire d'Antiquité. Il part de cette guerre-là, qui est une guerre fatale. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va gagner cette guerre. Il va foncer direction la capitale de Koresh. Il va aller attaquer Koresh, Baratzmo. Koresh, qu'est-ce qu'il va essayer de faire, dit le Malbim, au nom du Rabbi Yitzhak Abarbanel, qui ramène l'histoire. Il va essayer de faire la paix. Il a vu que c'était un fou furieux, qui a tout fait pour ruser. Il a fait vraiment des chokhmot extraordinaires. Et bien, il va dire, écoute, on fait la paix, Rabbi. On arrête de se battre, laisse-moi vivant. Là. Je te donne ma fille en mariage, je te donne mes femmes, je te donne ce que tu veux, laisse-moi. Pourquoi tu me tues? Viens, on fait la paix. Là, je veux ta tête. Je n'ai ni ta fille, ni ta mère, ni ta femme. Ta tête. C'est pas rigolo. Ta tête. Il va aller jusqu'à aller dans le palais royal, il va le sortir, il va le décapiter. Il était clac, c'était
Alexandre.
Alexandre.
C'est un sauvage.
Ouais. C'est la guerre, dis-moi.
Ouais.
C'est pas.
Il avait l'air
gentil. Hein? Il était gentil avec les juifs. Ah, t'es pas gentil du tout. La guerre, c'est la guerre. Hein. Albert, je te réponds. Pasuk Zain Uritiv Magia Etzelahil. Donc je l'ai vu arriver, parce que ce qu'on a dit avant, maintenant il rentre dans les mots. Je l'ai vu arriver ce fameux petit Cabril, ouais. Je l'ai vu arriver, et c'est l'Aïl, va être marmar et lave. Et il s'est déchaîné, il s'est battu directement avec lui. Rachid ramène, non pas Rachid, qui sont battus corps à corps. Deux rois qui se battent corps à corps. Alors, ouais. Va être marmar et lave, va y être l'Aïl. Donc il a déchiré, il a frappé le bélier, il a cassé ses deux cornes. Ça veut dire, Mada et Paras, chute libre. Et le fameux bélier n'avait pas la force de se battre contre lui. Il a donc jeté à terre, il a tué comme on avait dit, il n'a pas voulu faire la paix. Il a piétiné, d'accord. Rachid dit, il est mort sur le coup là-bas, il a tué sur le coup. Velo, Aya, Matil, Aïd, Miyado. Personne ne pouvait, des amis du roi Madaï et Paras, parce que Madaï et Paras, il régnait dans le monde entier. Donc, ils ont quand même des alliés. Ils ont tous eu peur de ce petit jeune Alexandre qui est devenu donc l'empereur après Madaï et Paras. Ok? Oui, parce que. Oui, t'as raison. Parce que. Ouais. Mais j'ai pas trouvé une réponse, mais logiquement, c'est parce que là maintenant, il s'adresse au Ham Israël. Il raconte pas l'histoire de. Jusqu'à maintenant, il parlait avec Béchatzar, il parlait avec Nebuchadnezzar, il va transmettre à Nebuchadnezzar des. Donc il écrit la conversion qu'il a eue avec. D'accord. Alors que là maintenant, il est en train de raconter ce que Hachem lui parle par rapport au Ham Israël.
Là, c'est l'ange qui lui explique.
Et c'est l'ange qui va lui expliquer tout ça. Mister, c'est ça, parce que j'ai pas vu qui parle de ça pour l'instant. Mais ça doit être ça. C'est vrai que ça
passe. C'est l'ange qui explique, c'est normal.
Il parle pas araméen, Bidjouk. Et donc, Tzvir Haizim, on dit que donc ce fameux Alexandre le Grand, Tzvir Haizim, d'accord, qui était donc on avait dit comment le Kadrab.
Cabril.
Cabril.
Cabri, d'accord. Tzvir Haizim, Igdil Admeod. Donc ce fameux Cabri, il est devenu, il a grandi énormément. Il dit Admeon, ou Kaatzmo Nishbera Kirenagdolan. Et qu'est-ce qui va se passer? Et de lui-même, Kaatzmo, de lui-même, va se casser cette fameuse corne-là qui représente Alexandre le Grand, car il va mourir de lui-même. Il va mourir, il ne va pas mourir en guerre, il ne va pas mourir vaincu, il va mourir, alors, jeune, 32 ans ou 30 ans, je ne sais pas, je crois qu'il y a deux versions, je ne sais pas, 32 ans ou 30 ans, mais il va être apparemment, d'après ce qu'ils disent les historiens, il va mourir de lui-même empoisonné. on va l'empoisonner. On ne sait pas si c'est sûr ou pas sûr. En tout cas, il est mort sans être en tant que vainqueur. Okay. Ça, il n'a pas perdu ça. Et donc, la corne s'est cassée. Vata'alena chazut arba tachtea, le arba uchod hashamayim. Et donc, de cette corne-là, qui s'est cassée, va sortir quatre autres cornes des quatre coins du monde, nord, sud, est, ouest. C'est quoi ça? Je ne sais pas si vous connaissez un petit peu l'histoire. Vous me suivez, M. Cohen? Ce qui est un petit peu l'histoire, c'est que quand Alexandre le Grand il va mourir, personne pourra prendre sa place. Il va y avoir des guerres entre les dirigeants, son fils, son machin, biduchouette. À la fin, ils vont partager le royaume en quatre. D'accord? Alors, le Malbim, il ramène au nom du Eben Ezra, au nom du. Il va nous faire un calcul, le Malbim, qui va prendre ces quatre. Et c'est partagé. Il va avoir la partie qui est gérée par les ça va? Attends, je finis après vous parlez. La partie qui va être gérée par les Égyptiens, les Grecs égyptiennes, Grecs Babel et Ashur, Grecs Paras et Madaï, et Grecs l'Ouest, la partie d'Ouest, par Philippus. Il y a partagé en quatre. Vous pouvez voir sur les histoires, ça se passe comme ça. Et donc, c'est les quatre cornes qui vont pousser de cette fameuse bête. Ou Mina Achat, tu voulais dire quelque chose, Rabbi Eliaou, nous dit le pasouk. Ou Mina Achat Mehem, Yatsa Keren Achat. De ces quatre cornes-là, il y a une autre corne qui est sortie, Matsira, qui était la plus jeune. Et Matsira, qui était la plus jeune. Écoutez bien. Vatigdal yeter ala Negev, et la Negev, vela Mizrach, vela Tzivi. Il y a une corne, écoute Anne, il y a une corne qui sort de une de ces quatre cornes, donc ça veut dire une corne parmi les cornes, qui va sortir et qui va prendre le pouvoir. Et ici, nous dit le Balbim, ça fait allusion à Antiochus Aracha. Et on appelle Matsira. Elle a grandi, Vatigdal, Yeter, elle a grandi plus que les autres, et elle va dominer le Negev, c'est l'Égypte, Mizrach, c'est la Perse, et Tsevi, c'est Israël. Antiochus, comment on dit en français Antiochus.
Antiochus,
d'accord, Aracha, parce qu'il y a plusieurs Antiochus, il va dominer à ce moment-là tout le Moyen-Orient, dont Israël et l'Égypte. Alors, le Malbim, il fait un calcul, enfin, il explique c'est quoi Matsira. Matsira, ça veut dire une corne jeune. Pourquoi Matsira? Et combien dans le Matsira il y a un point, dans le Matsira, il veut dire que ça fait allusion à deux Tsirot. Écoutez le calcul. Deux Tsirot. Deux fois Tsahir. C'est quoi ça? Un homme qui est deux fois jeune, qui va prendre le pouvoir et qui va dominer tout le Moyen-Orient, donc Antiochus. Alors le Malbim, il fait un calcul un peu historique. Il explique comme ça. Alors écoutez, une fois après c'est tout, vous êtes oublié de toute façon. Les quatre rois. Regardez tous les noms des quatre rois qui ont vécu, qui ont dominé après Alexandre. Le premier s'appelle Baltimus, il régnait en Égypte, tout ça il raconte. Deuxième, il s'appelait Silouk, il régnait donc Babel et Ashur, c'est l'Asie. Le troisième, il s'appelait Antiochus Arishon, lui il régnait en Perse. Et le quatrième, Philippus, c'est le frère d'Alexandre. Donc Philippe, le fils de Philippe, il s'appelait aussi Philippe. Il y a un mot de Philippe, ben Philippe. Lui, il régnait à l'est, à l'ouest. Bon, maintenant, c'est qui la lignée de Nebuchadnezzar, de Antiochus? C'était le deuxième. Il s'appelait Silouk. Alors Siloukoum, je ne sais pas quoi, il a eu un enfant qui s'appelait Antiochus Agadol. Le premier Antiochus. Il a eu un enfant qui s'appelait Silouk. Et Gidilikus. Silouk. Il régnait donc Babel. Non, mais c'est pas grave, c'est que pour comprendre c'est quoi Tsira Mitsira. Il régnait à Babel, c'était le grand frère. Le grand frère est parti faire la guerre avec les Égyptiens. Le jeune, qui s'appelait Gidilikus, il a tué son frère. Au lieu de venir. C'est pas grave. Au lieu de venir en aide. Allez. Au lieu de venir en aide à son frère contre l'Égypte, il est venu, il a tué son frère.
Pour prendre sa place.
Il n'a pas tué, il a pris, il a donné manger aux chiens. il a déchiqueté devant les chiens. Il s'appelait Antiochus. Il s'appelait Gedelikus. Ce Gedelikus, c'était le petit frère, donc le premier Tsahir. Pourquoi Tsahira? Il a pris la place de l'aîné qui aurait dû régner en Asie. Il a pris la place de Sikum. Donc ce Gedelikus, il a eu un enfant qui s'appelait Antiochus Akatan. C'est encore le troisième Antiochus. Ce Antiochus-là, pour l'instant, les Juifs ne sont pas dans l'histoire. Hein, ils sont bien avec tout le monde. Ce Antiochus-là, il a régné. Il a eu deux enfants. Un qui s'appelait Sur le qui? Sur le qui? Et l'autre qui s'appelait... L'autre qui s'appelait Antiochus, et c'est le rachat. Donc, qui va régner après Antiochus le père? Au lieu que ce soit Soliki qui va gagner, c'est Antiochus le frère cadet. Donc ça veut dire que Antiochus, il est fils de Antiochus. Les deux, c'est des cadets. Parce que Antiochus le rachat, il a pris la place de son frère Soliki. Et le père de Antiochus, des deux-là, c'était le cadet qui a tué... Qui était le fils du Gilicus qui a tué. Donc lui, c'était deux cadets qui ont pris la place, à la place de leur frère. Et de ça est sorti Antiochus Aracha. Ça, c'est pour dire, voilà, que c'est l'explication pourquoi c'est Metzira. Oui, on vous avez oublié déjà
bon.
Tout ce qu'on comprend, c'est quoi? Il y avait deux cadets dans la lignée des rois grecs d'Asie, d'accord, qui sont devenus rois à la place de leur frère. C'est pour ça qu'on dit qu'il y avait une forme, une corne qui mitzira, ça veut dire qui est petite deux fois, deux jeunes. Et eux, ils ont ce fameux Antiochus, Aracha, il va régner sur Babel, Israël et Mitzray.
Ces sources-là, vous les trouvez dans le livre Yamim?
Non, c'est si, ça, c'est dans le Malbim. Malbim qui ramène tout ça. Alors, on continue. Vas-y. Non, on continue. Allez, on continue. Vatigdal. Donc ce fameux. Alors vous comprenez que maintenant on parle d'Antiochus, d'Aaron.
Vatigdal.
Ce fameux rachat, il va réussir. Vatigdal, il va réussir à dominer et à instaurer sa, on va dire sa religion, on va dire ici. Et son but, c'était le seul depuis l'histoire du Ham Israël. C'est ce premier qui s'est battu contre les Juifs. Par rapport à la religion, par rapport au Rouhani. D'accord? Tous les autres rois, ils ont exilé, pas exilé. Tout ce qu'ils ont fait, c'était une question de guerre, une question de kavod, une question de soumission, etc. Eder, il voulait instaurer la chitat grecque, d'accord? Dans le monde entier, dans tous les pays dominés, dont Israël. Et Israël, il tient tête. Et donc, ça va être une guerre de religion. Vatigdal Atzva Shamaim, c'est pour ça qu'il te dit que la guerre a été jusqu'à se battre contre les Béné Israël, qui sont considérés Tzva Shamaim, l'armée d'Hachem, d'accord? Va taper Arza, Minat Tzva, il va réussir, ce Antiochus Aracha, de faire tomber cette religion, il va instaurer, hein? Il va instaurer donc les Yévanim, les Mityavnim, ça va devenir même, les Juifs vont devenir Mityavnim, ils vont devenir hellénistes. D'accord? Ils ont fait tomber la religion Arza, Minat Tzva, et Minat Kochavim, ils vont aussi malheureusement, égorger des Kohanim, égorger ceux qui font le Beth Amikdash, ils vont faire des massacres dans les Tzadikim, dans les Kochavim, dans les summum du Judaïs et des Juifs. Vatir Mesem, il va les écraser. Jusqu'à. Et là, c'est pas marqué, mais on connaît l'histoire, donc on comprend. T'imagines ceux qui ont étudié Daniel avant l'histoire? Incompréhensible. Qu'est-ce qu'ils ont compris quand ils ont étudié ça, dis-moi? Nous, maintenant, Pépère, on a toute l'explication, le Malbim. Et tu fais Daniel. 2 ans après que le Sefer est sorti. Tu comprends rien. C'est impressionnant. Qu'est-ce qu'ils ont fait, les Chachamim, quand ils ont étudié ça?
Ils ont mis à jour.
Pas tous.
Quand est-ce que ça a été diffusé?
Je te dis, chez Kassakadola, c'est diffusé 10 ans après, ou même pas. Daniel fait partie de...
Rien n'est arrivé encore.
C'est ce que je viens de dire.
Donc vous
avez
un livre
fermé, c'est tout. Il a vu
tout, oui. Ouais. Mais t'imagines, t'as un livre entier du Tanakh quand tu comprends rien, quoi. Quand même, c'est un livre du Tanakh. Non, mais après tu dis. Non, mais pas dans le Tanakh. Dis-moi, le Tanakh c'est. Le Tanakh là, on n'est pas dans nous qu'on comprend rien parce qu'on n'a pas étudié. Ce qui est toute la Torah entière, il comprend la Torah, mais ça c'était un livre incompréhensible parce que c'est pas encore arrivé. Nous on comprend maintenant et on dit ah ouais, mais ça c'est un livre de Mouna Hazak, Daniel. Alors on continue encore un tout petit peu. Ne dis-le pas, 3 minutes. Ve'ad, cette situation-là, de cette atrocité qui se battait contre le judaïsme et qu'il a tué des hachamim, qu'il a tué des kohanim, etc. Quand ça va s'arrêter, ve'ad, sar, atzava, igdil. Jusqu'à ce que vient un... Alors, il y a deux purushim, yarashim, albim. On va s'arrêter à ce pasouk-là parce qu'il est tard, mais on va le reprendre la semaine prochaine. Jusqu'à ce qu'est venu le sar atzava, un chef d'armée des juifs, c'est qui? Matityahu Kohen Gadol, Igdil, il est venu, il va réussir à surmonter, à se révolter contre, contre l'empire, l'empire grec, d'accord. Et il va même être réussir, ou Mimenu, ou Ramatamid. Et suite à ça, le Tamid, le Korban Atamid, va revenir, parce qu'il s'est arrêté pendant combien de dizaines d'années, ou je ne sais pas, on ne sait pas combien de bijouk. Mais suite à ça, le Korban Atamid va revenir. Veushlach Mechon Migdasho. Et ça, on va s'arrêter là, parce que c'est un autre pirouche. C'est le Malbim qui va éragir de Marloquette. En tout cas, voilà. C'est-à-dire que toute cette histoire-là des Grecs, elle est inscrite dans le livre de Daniel, avec les détails. Et comme j'ai dit tout à l'heure, Boucher, j'ai dit qu'après le Malach, Daniel va demander au Malach, c'est quoi tout ça? Il va lui dire, ça et ça, c'est Madaï et Paras. Il va dire les noms. Et ça, c'est Yavan, qui n'existait pas encore, Bichlal. Il va citer le mot Yavan. Donc, il n'y a pas photo. Le Sefer Daniel vous prouve irréfutable que la Torah était maître.